Bonjour Benjamin, on est dans un lieu pour moi presque improbable. Je ne connais pas de ce lieu à Montreuil, mais tu pourrais nous dire, toi tu as l'air de mieux le connaître que moi.
Non, je le découvre en fait aujourd'hui. C'est un endroit qui s'appelle Le Chinois, qui d'après ce qu'on m'a dit dans le temps était un restaurant chinois, et qui est aujourd'hui un lieu de culture et de pratique artistique. Voilà, et ce soir il y a une rencontre qui s'appelle Comment l'entendez-vous, qui est co-organisée par le Conservatoire de Montreuil et l'IRCAM, et qui va permettre au public de vivre une présentation du spectacle qui sera donné du 18 au 20 juin au Nouveau Théâtre de Montreuil.
Oui, en plus c'est le titre d'une émission de Claude Maupomé qui existait sur France Musique, je me rappelle très bien, sur le soir en fait, le dimanche soir, où elle rencontrait des gens incroyables comme Roland Barthes qui s'est exprimé sur Comment l'entendez-vous. Et alors ce qui est amusant, c'est quand on regarde le projet, alors bien sûr c'est sur un texte de Pascal Quignard, on va en parler, mais il se trouve que les oreilles n'ont pas de paupières. Alors évidemment, cette formule-là, je crois que tout le monde la connaît, cet essai sur la haine de la musique, c'est une des phrases que j'ai entendues le plus citée, et elle est devenue presque un élément idiomatique. Et alors qu'est-ce qui t'est arrivé quand tu es tombé toi aussi sur cette phrase?
Je me rappelle plus en fait le premier jour où je suis tombé sur cette phrase, parce que ce livre de Quignard, La haine de la musique, moi je l'ai lu il y a une vingtaine d'années à sa sortie en fait. Et c'est vrai que je me suis d'abord attaché au livre dans son entier. J'ai eu dans l'ordre d'abord un choc, et puis après, au bout de quelques années, assez vite, une envie de le partager avec un public. Je ne savais pas encore sous quelle forme exactement. Et il y a 2-3 ans, quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, je crois que j'avais suffisamment de recul et je me sentais suffisamment libre par rapport au texte de Quignard pour me décider à y aller. Et c'est à ce moment-là, en réétudiant le texte, que j'ai choisi de prendre cette phrase qui est le titre en fait du deuxième traité qui compose le livre La haine de la musique. Et j'ai choisi cette phrase pour le spectacle, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que je trouve qu'elle est assez représentative de l'esprit de Pascal Quignard. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui peut apparaître au premier abord très savant, très documenté, très référencé. Et en même temps, chez Pascal Quignard, il y a une sorte de lucidité sur ce qui nous constitue en tant qu'être humain, et une sorte aussi de distance et d'ironie. Alors, il se trouve que les oreilles n'ont pas de paupières. On sait pas si c'est une assertion extrêmement profonde ou juste un clin d'œil. Et j'aime bien cette chose-là dans la langue de Pascal Quignard. Après, c'est vrai que je peux peut-être expliquer en quoi cette phrase est emblématique, on va dire, de l'angle que j'ai choisi pour traiter le texte. Donc encore une fois, je l'aime bien parce qu'elle dit quelque chose de très simple. Je trouve que les oreilles n'ont pas de paupières. Tout le monde peut le comprendre et personne ne peut contredire ça. On comprend très vite ce que ça veut dire. On ne peut pas fermer ce qui serait l'équivalent des paupières. Donc on est condamné à entendre en permanence, nuit et jour, depuis la naissance. Avant même la naissance, dit Quignard, puisqu'on entend dans le ventre maternel, et jusqu'à la mort. Il y a finalement que la mort qui nous délivre de notre entendre. Et à partir de cette constatation extrêmement simple, anatomique, Quignard déroule, en fait, je crois, 2 directions. L'une qui est de dire que cette nudité que l'on a face au sonore, le fait qu'on est perméable au sonore et qu'on ne peut s'en protéger, cette nudité, elle est peut-être arrangée du côté de quelque chose qui aurait à voir avec la sensualité, avec le trouble, avec l'amour, avec le vertige, dans toutes les formes de vertige, vertige artistique, vertige amoureux, vertige spirituel, avec la transcendance. Évidemment, pour un compositeur, c'est quelque chose de magnifique, de très beau à faire entendre et à mettre en musique. Et puis évidemment, c'est une pensée très ambivalente, la pensée de Pascal Quignard. Cette idée de nudité face au sonore, elle rejoint aussi le fait que l'oreille est l'endroit de l'agression, alors agression quotidienne par la musique reproduite à l'infini, mais aussi par les sons et les bruits du quotidien. Mais c'est plus profondément que ça, c'est l'endroit de la manipulation. On est terrorisé par le sonore, la musique nous fait nous mettre au pas, la musique accompagne les armées sur le champ de bataille, la musique a accompagné les détenus de camps de concentration vers les chambres à gaz. Quignard déroule vraiment ces 2 points de vue en convoquant sa mémoire, des anecdotes, des réflexions qui traversent toute l'histoire de l'humanité, depuis le paléolithique jusqu'au XXe siècle, et qui traversent aussi tous les continents. L'Europe, bien sûr, mais aussi l'Asie, la cour du roi Louis XI, mais également la cour impériale au Japon, l'Allemagne dans la deuxième moitié du XXe siècle. Enfin, il y a quelque chose comme ça, de cette simple constatation qui peut me prêter légèrement à sourire. Il se trouve que les oreilles n'ont pas de paupières. Finalement, se tirent des fils extrêmement riches et très divers.
On pense à l'œil qui, lui, a des paupières et peut parfois écouter la musique en refusant les images.
Alors c'est vrai que c'est pas tellement l'endroit sur lequel j'ai travaillé, puisque moi j'ai choisi la forme d'un spectacle vivant, une forme apparentée au théâtre musical. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. On me dit, mais pourquoi finalement en tant que compositeur vous accordez autant de place à ce qui est visuel, au fait de convoquer d'autres disciplines que la musique? Et moi je réponds toujours en disant que finalement c'est pas tellement des disciplines artistiques que je convoque, mais c'est plutôt un continuum de sensations. Et pour moi, la musique est vibration, et la vibration ne demande qu'à s'exprimer, qu'à être orchestrée, qu'à être écrite, avec l'ensemble de potentialités de ce que propose aujourd'hui le spectacle vivant contemporain. Et c'est vrai que dans mon écriture, je me pose toujours la question au moment où j'écris la moindre note de musique, finalement, dans quel cadre elle va être entendue, dans quel contexte. Qui seront les spectateurs, si tant est qu'on puisse en préjuger, mais enfin, dans quel état ils seront, pourquoi ils sont là, avec quel bagage ils viennent, de quoi on parle, qui sommes-nous, qu'est-ce qu'on fait, où est la musique, etc. Et donc, finalement, c'est une double réponse à cette question de rapport entre musique et visuel. C'est à la fois l'idée que pour moi, tout est musique, y compris un déplacement, y compris un éclat lumineux, y compris un mot qui est dit, mais c'est pas le premier à le dire. Et puis c'est aussi la question que la musique n'existe que si elle est entendue, et que donc composer de la musique, pour moi, c'est aussi déterminer le contexte dans lequel va être entendue la musique.
Est-ce que tu as complètement tout écrit avant, ou est-ce qu'il y a une partie d'improvisation dans l'écriture ?
Alors ça, c'est une méthode que je développe depuis un certain nombre d'années. Il y a plusieurs niveaux de réponse. Aujourd'hui, la partition est entièrement déterminée, et si vous venez écouter le concert plusieurs soirs, vous allez peut-être trouver une marge de différence d'un soir à l'autre qui doit être de l'ordre de 4 ou 5%. Pour autant, moi j'utilise l'improvisation surtout comme une méthode préparatoire de constitution d'un groupe d'interprètes. Et ça, c'est bien en amont du projet. Ça me sert d'abord comme technique, on va dire plutôt de directeur artistique, pour rassembler une compagnie d'interprètes, pour traverser des choses ensemble, pour constituer une sorte de, j'ai que le mot anglais de background qui me vient, mais un terrain commun finalement, qui va être le terreau et le socle sur lequel toute l'aventure artistique va reposer. Et cette phase-là, dans laquelle je fais improviser les musiciens, mais aussi le comédien, même si rien n'en reste dans les matériaux qui sont utilisés dans la forme finale, elle est extrêmement importante pour préparer le terrain et pour le charger. Ensuite, il y a un deuxième endroit de réponse. Quand je parlais tout à l'heure des 4 à 5% de liberté, enfin, s'il faudrait poser la question aux interprètes, je pense pas qu'ils prennent ça pour vraiment de la liberté, plutôt comme une grosse responsabilité. Mais en tout cas, cette marge de vivant qu'il y a d'un soir sur l'autre, là, sur ce projet, elle est induite par la façon dont j'avais envie de traiter le texte. C'est-à-dire, je ne voulais pas d'un texte qui soit déclamé de façon monodramatique, ou qui soit déconstruit avec une utilisation musicale comme a pu le faire à d'autres époques, à Pergis par exemple, enfin, un texte matière. Là, j'étais vraiment attaché à ce que potentiellement on puisse entendre tout le texte et tout son sens, et que le comédien ait une diction, disons, naturaliste. Voilà, en tout cas, c'est de la voix parlée, c'est pas de la voix lyrique, et c'est pas de la voix déclamée rythmiquement, comme dans l'histoire du soldat, par exemple. Et donc, par rapport à ça, il fallait trouver un système d'écriture qui permette à la partition instrumentale de suivre la temporalité de la voix parlée et du texte, qui n'est pas une temporalité mesurable, donc avec des barres de mesure. Ce qui fait que la partition n'a pas de barres de mesure, mais a des petites barres qui correspondent à des syllabes précises du texte, des mots précis du texte ou à des paragraphes précis du texte, ça dépend des passages. Et de ce point de vue-là, il y a une écriture qui est mise en place pour le quatuor à cordes, qui repose beaucoup sur une écriture qui existe à base de réservoirs, de notes, de processus de transformation, à interpréter, à réaliser en direct dans un temps qui est adapté chaque soir. Alors certains soirs, le processus prendra 27 secondes, un autre soir, il en prendra 32, et un autre soir, il y aura peut-être une suspension imprévue dans le texte, et les musiciens sauront geler leurs notes et vivre cette suspension. Voilà, donc je ne sais pas si on peut parler encore d'improvisation à cet endroit-là, parce que par contre, la musique, que ce soit les matériaux musicaux, que ce soit le caractère de la musique, que ce soit son point de départ, son point d'arrivée, est totalement déterminé. Alors, je parlerai plutôt, moi, je ne suis pas musicologue, mais j'étais amené souvent à me poser cette question, je parlerai plutôt que d'improvisation, finalement, de cette pratique de la réalisation à vue qu'on avait à l'époque baroque, où à partir d'une basse chiffrée, le clavecin, par exemple, ou le continuo, était capable de réaliser la partie. On peut prendre cette analogie-là, on peut aussi parler des cadences qu'on a dans la musique classique, ces moments qui sont très cadrés dans la partition, puisqu'on sait où ils arrivent, on sait comment ils vont s'arrêter et vers quoi ils vont s'enchaîner. Mais néanmoins, ces cadences sont l'occasion pour l'interprète de mettre en avant une sensibilité particulière, une technique particulière, des modes de jeu qui lui sont propres. Et c'est aussi tout ce travail-là que j'ai eu un grand plaisir à faire avec le Quatuor Tana, qui est un jeune quatuor, mais très brillant et extrêmement rodé à l'interprétation contemporaine. Et c'est vrai que dans la phase dont je parlais tout à l'heure, qui consistait à charger le terrain, je me suis beaucoup inspiré de leur caractère et des modes de jeu dont ils se sentaient proches. Il y a eu cet aller-retour-là aussi.
Dans le travail, la musique s'est faite parallèlement au texte ou le texte a été avant? Comment ça s'est greffé l'articulation des deux éléments?
En fait, les choses avancer de concert, c'est le cas de le dire. Je pense que ce qui était prédéterminant, c'est l'idée de dramaturgie. Donc, en réalité, on va dire que la réalisation musicale, dans le détail, était une des dernières étapes qui se faisait d'ailleurs en parallèle avec la mise en scène du spectacle et le réglage de dernière, ce qu'on appelle les écritures de plateau, voilà, la mise en scène, les déplacements, l'évolution de la scénographie, la création des lumières. Et la période vraiment de travail conceptuel à la table, c'était toujours en parallèle la dramaturgie, parce que ce texte raconte des choses, ce texte a un sens, donc ça, c'est exactement comme un... Je me suis retrouvé finalement dans la position d'un compositeur d'opéra qui construit son livret, alors certes à partir d'un texte qui existe déjà, et ça le mérite est à rendre à Pascal Quignard, mais la dramaturgie de ce texte, c'est-à-dire quel passage choisir à mettre en regard de quel autre et dans quel ordre et pour raconter quoi, finalement. Tout ce travail de dramaturgie se faisait vraiment en même temps que la composition, parce que c'était intrinsèquement lié. Et finalement, ça, c'est quelque chose qui se retrouve un petit peu dans mes dernières pièces. Ce sont quasiment toutes des pièces qui sont un parcours de l'écoute. C'est-à-dire comment on entre dans le concert, par quel endroit on est hameçonné, dirait Pascal Quignard, qui prend souvent cette image du hameçon. Et puis, où est-ce qu'on est emmené et à quel endroit on est lâché. Si je prends l'exemple du spectacle, le spectacle commence par du silence, déjà c'est important de le dire, mais ensuite par un texte seul, à voix nue, la musique n'est pas encore née. Et ce texte dit « Quand la musique était rare, sa convocation était bouleversante comme sa séduction vertigineuse ». De ce point de vue-là, je suis extrêmement terre-à-terre, extrêmement littéral. C'est-à-dire, si je choisis de commencer le spectacle par ça, c'est pas pour rien, c'est pour faire venir l'idée de musique avant même la musique. Et si on me parle d'une musique qui était rare et qui était vertigineuse, je commence de presque rien et j'essaye de susciter cette tension-là. Et pour moi, ça aurait été un contresens que ce texte arrive au milieu, comme ça aurait été un contresens de commencer par une grande introduction musicale, puis de l'interrompre pour parler de la musique. Enfin, et il y a finalement comme ça tout un fil dramaturgique qui fait que la réécriture, on va dire, du livret et la composition musicale se nourrissaient l'un l'autre et se faisaient totalement en parallèle.